7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Au plaisir de vous retrouver s'ajoute celui d'échanger avec vous sur un sujet qui nous rassemble. Du chef d'entreprise à la boulangère, de la Corée au Liban, qui n'a pas sa série télé préférée? Transversale, globale, prescriptrice, les séries télé sont l'un des phénomènes culturels les plus passionnants de notre ère. Et en même temps, le genre recouvre des expressions très différentes selon les coins du globe et selon les époques. Qui aime quoi? Où? Que dit de nous cet engouement pour ces fictions fractionnées, les voisins? Et puis, qui de la poule et de l'œuf? Les séries télé sont-elles des révélateurs de nos sociétés? Ou bien, au contraire, les façonnent-elles? Et quelles sont les séries télé de demain? Toutes ces questions et les vôtres, chers voisins, je les poserai à nos invités. En studio avec moi, Sahar Bagheri, directrice du pôle format et contenu TV internationaux chez Médiamétrie Eurodata TV Worldwide. Bonjour.
Bonjour, Anastasie.
Vincent Colonna, sémiologue, auteur d'une somme sur les séries télé dont le tome 2 vient de paraître aux éditions Payot. Cette somme s'appelle L'art des séries télé et le tome 2 L'adieu à la morale. Bonjour.
Bonjour Anastasie.
Et Ibrahim Sissavané, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous trois d'être avec nous. Nous serons rejoints en deuxième partie d'émission par Alexandre Rideau, producteur d'une série télé à venir. La série s'appelle C'est la vie. Les voisins, le moins que l'on puisse dire est que le sujet vous inspire. Sur Facebook, The Rock, depuis Kinshasa, nous dit « Les séries télé jouent un grand rôle dans notre quotidien. Je suis fan de la série Frijoliti et quand il y a une coupure de l'électricité, je sors de chez moi pour tenter de trouver un endroit où regarder la suite. Je ne suis pas seule à faire ça. Au contraire, on croise des filles de 8 ans, des familles entières, en train de chercher où voir la fin de leur série préférée. Ça n'est plus de la passion, c'est de la rage, The Rock. » Anna Nialomé nous dit « Moi, j'aime suivre Prison Break. Je revois la série à chaque fois parce qu'elle me rappelle chaque fois combien la vie n'est pas facile. Quand tu cherches quelque chose, il faut le chercher avec toute ta force. C'est ce que j'ai retenu dans cette série. » Guillaume à Goma, nous sommes à nouveau en RDC, nous dit « Les séries TV, c'est notre vie, c'est nos vies quotidiennes qui sont peintes à travers les acteurs. J'aime les telenovelas pour leur caractère social proche des réalités africaines, les séries policières pour leur aspect créatif, imprévisible et leur goût du risque. Au cœur du péché est ma série préférée. » Oumar à Dakar nous dit, la série qui m'empêche de dormir actuellement, c'est Arrow, parce que le dévouement de son acteur principal et par ricochet de ses amis pour la cause de leur ville, de la justice, me semble très significatif. Ce ne sont pas vraiment les actions de violence qui m'intéressent dans cette série, mais plutôt le combat que mène l'acteur au nom de sa ville, de ses amis.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Les voisins, n'hésitez pas, continuez de réagir par Facebook. Vous avez aussi le standard de 7 milliards qui est à votre disposition, 00331 84 22 71 71. Vincent Colonna, nous venons de l'entendre à travers les témoignages des voisins, des choix de séries télé différents, mais plusieurs points communs, notamment la possibilité de projection dans les séries télé et l'addiction.
Oui, effectivement, ces interventions sont très intéressantes parce que d'abord, on voit que c'est un continent. C'est-à-dire que les séries télécitées sont aussi bien des telenovelas, c'est-à-dire un genre particulier puisqu'il est quotidien, et puis une série comme Prison Break, qui est au contraire, qui a un rythme de diffusion hebdomadaire. Et effectivement, Bossuet disait qu'on était un acteur secret des pièces de théâtre. Mais je crois que c'est pareil pour les
séries.
Ça
fonctionne aussi pour les séries télé. On est l'un des personnages.
Voilà.
C'est pour ça que ça fonctionne.
Exactement. C'est-à-dire qu'on se projette ou on se laisse envahir par les personnages, par leurs émotions. En fait, les personnages sont des conducteurs d'émotions. À travers eux, on va vivre les mêmes émotions, la peur, la joie, l'indignation, la révolte.
Donc il y a quelque chose d'assez narcissique finalement, puisque vous dites qu'on se projette, et ce besoin de se voir régulièrement, c'est aussi une manière de vivre une autre vie?
Oui, c'est une manière de vivre une autre vie, mais aussi je crois de prendre de l'énergie. Vous voyez, de recevoir une certaine énergie. Une jeune femme le disait bien, elle disait « Prison Break, ça me fait comprendre que la vie n'est pas facile. Donc, vous voyez, elle tire une certaine force de cette série. Elle la métaphorise, puisqu'elle la transporte dans son univers à elle, avec ses problèmes à elle. Et à partir de là, elle tire une certaine énergie pour vivre au quotidien.
Et elle s'en retrouve dynamisée. L'expression série télé Vincent Colonna recouvre des styles différents. Vous pouvez nous les présenter ?
Tout à fait, parce que entre déjà, je crois qu'il faut bien différencier tout ce qui est occidental, là-dedans je mettrais l'Europe et les États-Unis, et tout ce qui est non occidental, c'est-à-dire quand même 75% de la planète, la majorité, qui regarde plus, davantage des telenovelas. Alors, je crois que c'est important parce que la telenovela, puisque c'est féminin, c'est un genre qui est très moral et qui est très positif, qui est féministe, qui invite les gens à se prendre en main, à travailler. Alors,
c'est le meilleur ami.
Voilà. Alors qu'avec la série et le feuilleton, d'abord, il n'y a pas ce côté moral explicite. Je rappelle, j'insiste, la telenovela, il y a une morale qui est explicite. On a un peu des sermons moraux qui sont transmis par certains personnages. Sauf, comme c'est très bien fait, c'est pas du tout ennuyant ni pesant. Et à côté de ça, dans les séries télé, il faut distinguer les séries grand public qui passent sur les grandes chaînes comme...
Alors là, on est passé du côté occidental de la production.
Voilà. Dans le côté occidental, je crois qu'il faut tout à fait distinguer les séries grand public qui passent sur les grandes chaînes. En France, ça serait TF1 ou France 2.
Dans votre livre, vous dites qu'il y a deux types de séries télé occidentales. Donc, les grands publics.
Les grands publics. Et à côté de ça, les séries d'auteurs qui passent sur les chaînes à péage comme Canal+, HBO aux États-Unis ou Arte en France. C'est pas une chaîne à péage, mais...
C'est une chaîne culture, c'est pas une chaîne...
Et ces séries-là, elles ont comme caractéristique de présenter beaucoup de héros négatifs. Et je crois que c'est la grande nouveauté depuis les années 90, c'est que les héros sont des méchants. En fait, on n'avait jamais vu ça avant dans les spectacles populaires.
Sahar Bagheri, vous allez dans le sens de Vincent Colonna, vous notez vous aussi un assombrissement du héros, un changement de type de héros ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est que on avait une domination vraiment des séries américaines jusqu'à il y a quelques années, avec vraiment des séries, des networks qui continuent à faire de grosses audiences, comme NCIS, CSI, Big Bang Theory. Mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que vraiment, on a l'émergence de séries un peu plus de niche, des séries du câble, qui font de plus en plus de grosses audiences. On parle de Breaking Bad dans le second tome de Vincent Colonna.
Absolument.
Voilà, on parle également de grosses séries comme The Walking Dead, qui a fait en 2014 23 millions de téléspectateurs. C'est vraiment du niveau de série des gros networks américains.
Qu'est-ce que vous appelez les gros networks américains ?
Ce sont
RFI, parlons français.
Ce sont des networks comme ABC, CBS, Fox.
Donc vous parlez des chaînes de télévision.
C'est
en fait.
Ça, des chaînes de télé qui sont accessibles à tous, versus contrairement aux séries qui sont sur le câble, comme HBO, comme a mentionné Vincent Colonna, AMC, FX.
Est-ce que 2014 a été une année faste pour les séries télé ? Sahar Bagheri.
Oui, et c'est pas uniquement en 2014 d'ailleurs, vraiment.
C'est un phénomène qui a tendance à s'accentuer.
Exactement. Donc, ce qu'on voit, c'est que en termes de durée d'écoute, d'abord pas uniquement pour les séries, mais pour le monde entier. Dans le monde, on a 3h14 de temps passé devant la télé chaque jour. Donc, dans le monde entier. En Europe, c'est 3h54. Donc, vraiment, on consomme vraiment beaucoup.
On aime bien la télévision.
Exactement. Et ça va vraiment de plus en plus en s'accroissant. En 10 ans, on a eu 15 minutes de plus passées devant la télé. Et vraiment, ce qu'on voit, c'est que la fiction C'est le genre le plus récurrent qui arrive le plus en plus au top des palmarès. Et en particulier les séries télé. Les séries télé, c'est 84% des tops des palmarès de la fiction. Aussi bien les soaps, les telenovelas, comme on en parlait avec Vincent, les sitcoms. Et vraiment, ce qu'on voit, c'est que donc la fiction, les séries télé dominent les palmarès, les meilleures audiences, et que la création vraiment locale est au cœur de tout ça. On a plus de 4000 programmes qui ont été, 4000 séries qui ont été lancées dans une vingtaine de pays dans le monde, et 2/3 d'entre eux sont des créations originales locales.
Et en ce que disant, Sahar Bagheri, vous regardez comme moi Ibrahim Sissavané. Je le disais en vous présentant, vous êtes le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les Ivoiriens consomment les séries télé?
Écoutez,
aiment quoi en Côte d'Ivoire?
Non, le problème des séries télé, c'est un phénomène mondial. Donc la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains, consomme énormément de séries télé. Il y a d'une part les telenovelas qui passent par la chaîne publique, mais grâce au bouquet, il y a l'ensemble de toutes les séries qu'on vient de citer là. C'est un phénomène culturel, économique, et je dirais même quelque part géopolitique. Ces séries ont un impact réel sur les populations, pas seulement d'ailleurs sur, j'allais dire, l'homme commun. Ça a de l'influence à ce niveau. Ce n'est pas un hasard si très souvent après une série, on va fleurir des prénoms ou des surnoms. Mais même sur l'élite, je me souviens d'une anecdote, un haut responsable qui me disait un jour, je regarde la série américaine et je les recommande parce que ça peut accroître notre capacité d'anticipation et de planification.
C'est-à-dire?
On prendra ça comme on veut. J'ai pas envie de citer précisément la série, mais ça s'agissait de 24 heures chrono. Il trouve que cela permet d'être en éveil en regardant un peu ce qui se passe, leur capacité à anticiper, l'organisation. C'est dire en tout cas que ça a un impact énorme. Mais ça charrie bien évidemment un certain nombre de variables culturelles qu'on ne peut pas occulter non plus. Cela me paraît extrêmement important de le souligner. Si je peux me permettre, je dirais que il y a une double consommation. Il y a d'une part ce que tout le monde voit, mais il y a aussi comment les gens le vivent de façon spécifique.
Oui.
Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir que cette production est en train de changer totalement de nature.
C'est-à-dire?
Je suis convaincu que là aussi, les pays africains vont être, à mon avis, la prochaine étape.
Alors, parmi les 4000 programmes qu'annonçait Sahar, vous pensez que l'Afrique a une belle part?
Je le pense véritablement. Avec toute cette énergie thésaurisée, avec toute cette créativité qui va se libérer. Je l'ai encore constaté récemment au FESPACO. J'ai vu des centaines de porteurs de projets. Très souvent, d'ailleurs, ce sont des femmes, tant mieux, qui sont productrices de séries. Et je pense que si on maîtrise le processus de production, sans en arriver évidemment à la dimension industrielle qu'on constate aux États-Unis, vous verrez, dans quelques années, je pense que les séries africaines vont rendre la télévision autosuffisante et même prétendre à une sorte d'exportation.
C'est ce que j'allais dire. Qui sait, peut-être pourra-t-on regarder sur TF1, sur France 2, une série télé créée, produite par une productrice ivoirienne avec un casting entièrement ivoirien. Allez savoir, une fois n'est pas coutume, à la radio, on allume la télé, 7 milliards de voisins devant leur série télé. C'est tout de suite, mais pour le moment, c'est la musique de Snoop Dogg avec la complicité du légendaire Charlie Wilson. Ça s'appelle Peaches and Cream.
She about to go in. She likes that low end. Damn, my ass is so big. Just keep it bumping. Peaches and cream.
She too fly for words. And where I'm I'm mad down too high for birds. Shorty, what you think about my return? Cause what he think about it ain't my concern. I ain't come for you, I came for your missus. I don't do it for the haters, I do it for the players. Well, okay, I do it for the riches. But in the meantime and in between time, shorty right there gon' get it. If she with it, if she ain't, then I know a partner down. Cause a partner throwing shots every time I turn around. And a partner bringing partners every time I come to town. I'm a G6, sir, a Maybach, girl. You can tell the chauffeur, he can park it right there. And I'ma walk up to the club upstairs. And when I come down, he can bring it back,
burr. She likes that low end. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Shorty dancing like she knows she's the baddest in the place. Hey, hey, I wanna get with you. Freak, I'm filming now. Hey, so what you wanna do? Got a freak, I'm dressed on. Them newbies on her feet. And them bottles with the sparkle. So the other girls can see that she's. Hey, I wanna get with you.
Charlie Wilson et Snoop Dogg dans 7 milliards de voisins, c'était Peaches and Cream. On retourne devant notre télé et avec nos trois invités, Sahar Bagheri, Vincent Colonna et Ibrahim Si Savané. Je vais lire un extrait de votre formidable livre, Vincent Colonna, sur les séries télé, qui s'appelle L'art des séries télé. Et c'est le tome 2 que j'ai avec moi en studio, qui s'appelle L'adieu à la morale. Dans ce livre, vous dites... en parlant des séries télé, cette nouvelle forme de fiction facilitera de nouvelles dominations culturelles et sociales. À ce point-là, les séries télé peuvent être influentes à ce point-là?
Oui, forcément. Regardez le cinéma, il a donné une forme de propagande politique très très importante. D'autre part, la série télé véhicule des valeurs, des points de vue sur le monde et même une politique.
Et le tout par la séduction. Donc on peut
et
pas
le tout par l'imaginaire.
On n'a pas le temps de s'en défendre.
Donc effectivement, c'est insinueux. Vous voyez, on s'en rend pas compte. Mais là où je suis optimiste, c'est que aujourd'hui, les séries télé viennent de tous les pays. Et on peut pas dire c'est les États-Unis ou c'est la série américaine. Non, parce que vous avez des séries scandinaves, vous avez des séries nigérianes, vous avez des séries anglaises, allemandes,
c'est un
etc.
Pot.
Donc effectivement, ça vient de tous les pays et je dirais qu'avec s'il y a une volonté politique, tous les pays peuvent en produire et aussi bien pour leur marché intérieur que pour l'exportation. Regardez ce qu'a réussi à faire un petit pays comme Israël.
C'est-à-dire avec comment?
Eh ben, ils font des séries qui sont achetées par les Américains et ensuite adaptées.
Vous pensez à Homeland?
Homeland, mais il y en a 10 comme ça. Hein.
Très bien.
Il faut savoir qu'il y en a 10 comme ça.
Sahar Bagheri, on parle de l'influence des séries télé sur la vie des individus. Vous allez dans ce sens-là aussi?
Oui, je vais dans ce sens-là. Les séries ont une influence positive comme négative.
Néfaste, hein. Oui.
Voilà. Les exemples vraiment les plus frappants de ces dernières années, c'est vraiment par exemple 24 heures, la série américaine, qui a fait émerger un président noir, David Palmer, qui jouait par Davis.
Qui a fait émerger, peut-être que...
Iceberg.
on ne sait pas, mais en tout cas, on dit que le fait que les Américains se soient habitués à un président noir dans la série télé a pu jouer dans le fait qu'ils votent plus facilement
voilà,
pour un président noir.
Précisément.
Parce que ça le rend plus naturel. Ça le naturalise, en quelque sorte.
7 milliards de voisins et leur série télé. Dis-moi ce que tu regardes, je te dirai qui tu es. Avec nos invités, Ibrahim Si Savané, Sahar Bagheri et Vincent Colonna, nous analysons disons le pourquoi et le comment de ce phénomène irrépressible. Et aussi, on parle de ce qu'il dit de nous. Après le flash, on revient. Les voisins, vous pouvez continuer de vous manifester via Facebook ou nous appeler si vous avez des questions ou un partage, une série télé que vous aimez particulièrement, à nous faire partager. 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Aujourd'hui, les voisins, nous analysons un phénomène culturel planétaire, les séries télé. Et dans la famille séries télé, je demande les telenovelas, direction le Brésil, le royaume des telenovelas. Indétrônable, le Brésil règne en maître sur ce secteur, avec des millions de téléspectateurs dans le pays. Tous les jours, mais aussi à l'étranger, car les novelas brésiliennes s'exportent partout dans le monde et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Bonjour François Cardona.
Bonjour.
Une nouvelle novela fait beaucoup parler d'elle en ce moment au Brésil.
Oui, elle s'appelle Babylonia, c'est la nouvelle novella diffusée à 20h en prime time, et c'est l'événement de ce mois de mars sur la principale chaîne de télévision du pays, la Globo. Et Babylonia, c'est une très grosse production puisqu'elle a été en partie tournée à l'étranger, à Paris et à Dubaï notamment, et le succès a été immédiat avec, tenez-vous bien, plus de 35% de parts d'audience la première semaine, et une polémique aussi parce que deux des personnages sont lesbiennes d'un certain âge, et le baiser sur la bouche des deux actrice dès le premier épisode a fait le buzz ici sur les réseaux sociaux immédiatement après la diffusion avec le hashtag Beijasso, le gros bisou, qui a fait fureur, ce Beijasso sur Twitter et Facebook. Sauf que la semaine suivante, après ce Beijasso, la telenovela a perdu un tiers de son audience. Ah. La novela, c'est aussi cela au Brésil, susciter le débat de société dans un pays qui reste, vous le voyez cependant, très conservateur.
Alors dites-nous François, les telenovelas vont-elles concurrencer les budgets cinéma avec des tournages de plus en plus ambitieux? Tout est fait pour séduire les téléspectateurs?
En tout cas, cette année, visiblement, le leitmotiv des producteurs, c'est de faire voyager les Brésiliens. La Globo applique la leçon et diffuse une autre novela, Sete Vidas, Sete Vies, en portugais, à 18h. C'est une novela importante, celle de 18h, un produit d'appel en quelque sorte. Oui. Et celle-ci a été tournée en Argentine, en Patagonie. Les Brésiliens vont pouvoir suivre pendant plus de 100 épisodes la vie d'un homme qui découvre, après avoir été donneur dans une banque de sperme, qu'il est en fait le père de 7 enfants. Et donc cet homme part à leur recherche en Patagonie. Les Brésiliens ne se lassent pas de ces mélodrames. Les télévisions diffusent des novelas toute la journée ici. Ils les diffusent et les rediffusent. Leurs audiences sont donc fragmentées, mais accumulées. Elles sont indispensables à toutes les chaînes de télévision. D'ailleurs, comme aux Brésiliens, il faut dire que les jeunes sont nourris littéralement au biberon télévisuel au Brésil, puisque près des deux tiers des enfants de moins de 9 ans passent plus de 3 heures en face du petit écran tous les jours ici au Brésil.
Waouh, c'est impressionnant. Alors, les telenovelas, les novelas brésiliennes ne se contentent pas du marché brésilien. On les trouve sur presque tous les petits écrans de la planète.
Oui, et d'ailleurs, le produit phare aujourd'hui de la Globo, la principale chaîne de télévision brésilienne dans le monde, c'est la telenovela Avenida Brasil. Elle a été traduite en 17 langues et elle est diffusée aujourd'hui dans plus de 130 pays, dont les États-Unis, où hier soir, lundi, le premier épisode de Avenida Brasil a été diffusée. Alors, cette novella dont les héros sont issus de cette nouvelle classe moyenne brésilienne avec ses ambitions, ses travers, sous-tendus par cette trame de vengeance familiale, un cocktail concernant, comme disent les producteurs de télévision, et qui marche, visiblement, puisqu'ici au Brésil, le dernier épisode avait rassemblé plus de 50 millions de téléspectateurs. Et la novella brésilienne ne semble pas vieillir non plus, puisque, par exemple, la télévision cubaine va diffuser d'ici peu une novella brésilienne, mais qui date qui demande tout de même d'il y a 8 ans. Attention tout de même, le marché brésilien attire également la convoitise d'autres pays producteurs de novelas avec l'arrivée de la première série turque qui s'appelle Mille et une nuits. C'est déjà un succès en Argentine et au Chili. Mille et une nuits vient de commencer à être diffusé ici sur la télévision brésilienne avec 180 épisodes. Vous le voyez, des novellas ont encore de bons jours devant elles.
Muito obrigado, François Cardona. Vous nous appeliez depuis Rio de Janeiro. Je vous souhaite une très belle, elle sera forcément sous le soleil, une belle journée à l'écoute, bien évidemment, des programmes de RFI. À très bientôt dans cette milliard de voisins. Vincent Colonna, vous réservez quelques belles pages de votre livre aux telenovelas, dans lesquelles, dans votre livre, vous dites notamment « Le monde peut être partagé en deux bords, comme au temps de la guerre froide, dont la telenovela recompose certains enjeux. » Vous n'y allez pas de main morte ?
Non, effectivement, parce que c'est un genre qui est peu connu en France, et pourtant c'est un genre très intéressant. Tout à l'heure, je disais que c'était un genre moral, mais c'est aussi un genre politique. Parce que, par exemple, dans la telenovela, vous avez toujours une critique des riches. Donc, on apprend aux gens modestes à ne pas céder au prestige de la richesse. Parce que
vous tout ce qui brille n'est pas or.
Exactement. Parce que vous voyez dans ces pays d'Amérique du Sud, par exemple, il y a très souvent des anciennes familles, des vieilles familles, donc qui cumulent le prestige de l'argent, le prestige de l'ancienneté, le prestige d'une certaine aristocratie.
C'est un peu la vengeance du pauvre, alors, ces novellas.
Exactement. Tous les telenovelas ont un aspect lutte des classes.
Est-ce que ça peut expliquer, Ibrahim Sissavané, le succès des telenovelas en Afrique?
Oui, je pense incontestablement.
Ce clivage social avec les très riches d'un côté et puis des très pauvres de l'autre.
Je pense qu'il y a de cela. Il y a aussi le fait que ce n'est pas perçu comme une domination culturelle. On s'identifie beaucoup plus facilement lorsque le Brésil ou d'autres pays exportent ces telenovelas vers l'Afrique. Ce n'est pas perçu forcément comme une domination culturelle. C'est assez proche, même si, évidemment, il y a pas mal de différences aussi. Cela explique le succès. Mais je voudrais quand même dire que ces telenovelas ont un impact, j'allais dire, économique négatif sur les chaînes de télévision africaines.
Ah.
Parce que ça, c'est un aspect peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Le fait qu'on se contente d'importer, cela a handicapé aussi.
Ça paralyse la créativité.
Absolument. D'autant plus que il y avait tout un système d'échange et de bartering en Afrique qui faisait que les chaînes de télévision n'investissent pas dans la production, se contentent d'importer cela par l'intermédiaire d'ailleurs souvent d'agences de publicité qui font des trocs avec des millions d'espaces publicitaires contre la mise à disposition gratuite, en guillemets, de ces telenovelas.
Mais alors, cette paralysie est en train de changer. Vous nous l'aviez annoncé tout à l'heure en première partie. Vous disiez que la vitalité et la créativité africaine est en train de faire bouger.
Absolument.
Ça.
Absolument. On le voit partout. Je pense que, sans vouloir crier au génie, en tout cas, les Ivoiriens ont été en pointe. Mais l'autre phénomène aussi, c'est que les téléfilms de ces gens circulent dans le reste de l'Afrique. Et revenant du FESPACO, j'ai vu une grande vitalité des producteurs qui sont la plupart du temps des productrices.
Je veux bien que vous nous parliez un peu de la créativité ivoirienne dont vous disiez que les Ivoiriens sont en pointe.
Oui, vous savez que il y a beaucoup de comédies de situation qui sont produites, qui sont même exportées dans le reste de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs une jeune Ivoirienne qui a remporté, je le dis en passant, le
ne
meilleur...
Ne passez pas,
le, bon, d'accord,
prenez
en tout
votre
cas,
temps.
A remporté le prix de la nouvelle série télé au FESPACO cette année. Mais il y en a des dizaines d'autres qui sont déjà dans les starting blocks et qui sont en train de préparer des sagas et des séries au long cours. Mais j'insiste sur cet aspect parce que se contenter d'importer dans ce domaine aussi, l'importation seule peut être un facteur d'appauvrissement. Si je voulais faire une analogie qui va détonner un peu, lorsqu'on se dit qu'il est plus facile d'importer du riz d'Asie plutôt que de produits, eh bien la riziculture disparaît. De la même façon, si on se contente de consommer sans produits, sur place, je crois que cela a un impact négatif.
Je suis sûr, cher voisin, que vous ne pensiez pas qu'on comparait vos séries télé préférées à un bol de riz, mais c'est aussi ça, 7 milliards de voisins, des surprises. Sahar Bagheri, un pays était grand consommateur de telenovela et devenu producteur, François Cardona nous le disait un peu, la Turquie.
Oui, la Turquie, vraiment, c'est un gros producteur de fiction. Et en fait, les thèmes qui sont vraiment utilisés dans les séries turques, c'est d'abord les thèmes autour de la famille, la diversité sociale, la diversité culturelle, et aussi toute la thématique historique qui vraiment se concentre sur le passé ottoman du pays. Mmh. Et la Turquie avait commencé à exporter vers les Balkans, donc on assimilait ça à vraiment une proximité de la culture et de l'histoire commune dans la région. Ensuite, ça s'est propagé au Moyen-Orient et en Afrique. Et maintenant que ça atteint des pays, des régions comme l'Amérique latine ou les États-Unis, vraiment, on se rend compte de ce qui fait l'originalité des séries turques. Donc on peut parler de deux exemples vraiment forts. Il y a Magnificent Century qui a été exporté dans plus de 40 territoires, et également Hazel, qui est un conte de Monte Cristo mais moderne, qui vient de passer au Chili.
Formidable. Bientôt, on aimerait qu'à cette liste s'ajoute un réalisateur ou une production africaine, mais peut-être dans quelques années. Je vous propose d'accueillir tout de suite Tierno. Un voisin qui vit à Paris et qui a lui un témoignage à nous apporter sur son rapport à une série télé particulière. Bonjour Tierno. Comment allez-vous?
Et vous? Très bien.
Mais très très bien. Alors vous avez une affection particulière pour une série télé?
Oui, moi j'étais vraiment un série maniaque, quoi. J'aimais tellement les séries. Et je suis tombé sur une série il y a 3 mois, Prison Break. Je l'ai fini en 3 mois. Et vraiment, je suis resté sur ma faim. Et ça fait presque un mois que j'ai fini. J'essaie de relancer plusieurs séries, mais j'arrive pas, quoi. Je reste sur ma faim, quoi, comparé à Prison Break, quoi. J'arrive pas à m'attacher à quelque chose d'autre, quoi. Cette série m'a tellement fait quelque chose que...
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette série que vous n'arrivez plus à retrouver?
En fait, c'est la décadence d'un homme, quoi. C'est comment ils ont fait le personnage et comment il était au début et comment il a pu finir. Et j'essaie de voir les autres séries que j'ai vues ou de voir la spinosie de plusieurs séries comme Game of Thrones, mais j'arrive pas à retrouver ça, quoi.
C'est cette émotion particulière et cette adhésion.
Cette adhésion, quoi. Vraiment, j'ai essayé un peu Homeland, mais j'ai trouvé ça un peu blasphématoire, donc j'ai préféré arrêter. Et là, je reste sur ma faim. Là, j'ai aucune série pour l'instant.
Bon, alors, Sahar Bagheri, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer à notre voisin? Je sais pas, une série vers laquelle vous pourriez l'orienter. Je sais pas, dont vous auriez entendu parler et qui pourrait, comme ça, et qui aurait la réputation d'être particulièrement enlevée.
Il y a beaucoup de séries en ce moment qui mettent en avant les anti-héros, et c'est ça qu'on aime un peu, ces héros torturés de Dexter à Walter White, et en passant par le héros de Prison Break. Donc je comprends tout à fait que ça puisse parler aux téléspectateurs.
Alors est-ce qu'il y a encore plus violent, encore plus happant à venir en préparation ou même à disposition?
Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus qu'on a une montée des séries très noires. Donc on connaît vraiment l'appétence, l'attrait des séries scandinaves pour le nordique noir, ce qui fait vraiment leur particularité. Mais ça s'étend vraiment aussi à d'autres pays. Et particulièrement des séries très sombres autour de kidnapping d'enfants, par exemple. On a vu ça avec Broadchurch, la série anglaise.
Est-ce que vous connaissez, Tierno?
Non, je connais pas.
Ah voilà,
je
prenez pas. Note, Broadchurch.
Ouais, je vais essayer.
Je vous la conseille.
Ça sera aussi trash.
Voilà. Bon, eh bien, ça, vous avez le conseil de Sahar Bagheri, regardez, et peut-être que vous trouverez, alors peut-être pas aussi bien que Breaking Bad, mais au moins des émotions.
Pourtant, on m'avait prévenu. Hein. On m'avait dit, dès que j'aurais fini Breaking Bad... Je vais rester sur ma faim, quoi. Je vais lutter après.
Bon, eh bien, continuez la lutte. Madame. Belle journée. Merci pour votre témoignage, Tierno. Tierno nous a appelé au 33 84 22 71 71. Vous pouvez encore le faire, cher voisin. Tout de suite, je vous propose la musique de Fino. Ça s'appelle Alobam. Yes, it got fun of them. Memoria, I had it out of what come. It got fun of them. Stand up, guy. Yeah, I know you got my back. Keep all of them.
Rapping for these niggas from city to city. I know you got me, Ibu Alabam. Man, pass a nobe. Yes, we got fun to have Alabam. Rapping for these niggas from city to city. I know you got me, Ibu Alabam. Bonheza, bonheza, ima no kwatine meze. Abu my belly, jenken boy, and one nebika dress. Really, I don't know the one that I want. Top of endless level, curious, it didn't under your living in the future, well, let's attack my picture. And I'm thinking of my mother, just one, I love a creature. Put my city on and they ever ready to ball. Abu Mondo, the food, even one shout out to Mr. Raw, huh? Huh? Man, pass a nobe. Yes, we got fun to have Alabam. Straight up. Man, Muaya, I had it out of Wakam. We got fun to have Alabam. Straight up. Man, pass a nobe. Yes, we got fun to have Alabam. Straight up. Man, Muaya, I had it out of Wakam. We got fun to have Alabam.
She ain't no know me. Alabam. Shorty talk, say she don't know me. Take a picture. So many likes, but she Instagram that pic. She ain't no know me.
Alabam.
Shorty talk, say she don't know me. Take a picture. So many lives, Instagram.
7 milliards de voisins et la musique de Fino, ça s'appelle Alabam. Les voisins, les séries télé sont au cœur de nos échanges. Je vous propose de rejoindre, d'accueillir plutôt le producteur d'une série télévision à venir. Cette série a été écrite par une merveilleuse raconteuse d'histoire, Marguerite Aboué. Vous savez, la maman de Aya de Yopougon. Et la série C'est la vie arrive sur TV5 Monde au mois de juin, et Alexandre Rideau en est le producteur. Bonjour.
Bonjour Anastasie, bonjour à tous.
Alors, cette série télé C'est la vie, vous en êtes le producteur, mais vous avez suivi de très près sa création, son évolution et son profilage, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse déjà, des débuts de cette série?
Ben oui, tout à fait. Vous savez, c'est une série qui a été créée face à un constat en Afrique de l'Ouest et du Centre, un constat on sait qu'il y a 6% de la population mondiale qui habite là-bas, mais qu'on y trouve 33% des fins tôt de décès maternels. Cela représente plusieurs centaines de milliers de femmes qui meurent chaque année et plusieurs centaines de milliers d'enfants aussi. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait utiliser le format de séries télévisées, comme l'ont décrit vos invités en première partie d'émission, pour porter des messages auprès du grand public et d'un grand public de Madagascar à Dakar.
Alors c'est un projet de série télé, un peu comme Vincent Colonna décrirait les telenovelas, donc avec une morale.
Alors, il y a une morale, bien sûr, on n'a pas le format de telenovela, c'est pas une série qui va passer tous les jours, on est vraiment sur un format de série de 26 épisodes, de 26 minutes, etc., mais où il y a des personnages qui sont positifs, négatifs, enfin qui sont comme vous et moi, qui ont du bon et du mauvais en eux, mais la série montre les conséquences des décisions qu'ils prennent dans la vie. On prend tous parfois de bonnes décisions et parfois de mauvaises décisions. Et l'histoire, qui a été écrite en effet par Marguerite Aboué, mais accompagnée de scénaristes de 4 pays, du Burundi, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, l'histoire en fait montre aux téléspectateurs quelles sont les conséquences des choix pris par les personnages principaux de la série.
Alors, il y a une particularité à cette série, c'est son financement, Alexandre Rideau.
Mais oui, tout à fait. Puisque la série essaye de porter des messages au mieux vers les téléspectateurs en matière de santé maternelle et infantile, de droits en matière de santé de la reproduction, nous avons eu monté un financement assez innovant, où en fait 30% des financements viennent de préachats classiques de style fonds images de la francophonie de l'OIF, A+, Canal France International, TV5 Monde, comme vous en avez parlé tout à l'heure, mais où la grande majorité de ces fonds, les deux tiers de ces fonds, proviennent des fonds français Muskoka, qui sont déversés à travers 4 agences des Nations Unies, pour lutter justement contre la mortalité maternelle et infantile. Et nous avons utilisé cet argent, au lieu de créer des campagnes classiques de style de spot radio, t-shirt, rassemblement social, enfin le genre de campagne que l'on retrouve assez généralement en matière de santé publique, on a utilisé ces fonds pour créer cette histoire, la faire filmer par de grands réalisateurs sénégalais.
N'hésitez pas à nous en donner les noms.
Ah ben, Moussa Senapsa, que vous devez connaître, pour avoir tourné entre autres Madame Rouette, Tableau Ferraille, Et le jeune et très prometteur Sabakari Assini-Colli, qui, avec des techniciens qui viennent plutôt du monde du cinéma, l'idée était justement d'amener le monde du cinéma à la télévision pour rechercher la qualité, une qualité qui pourrait dépasser les frontières d'un pays, pour pouvoir être exportée sur l'ensemble du continent et pourquoi pas ailleurs. Enfin, d'utiliser ce savoir-faire pour raconter une histoire qui se veut universelle, puisque ce sont quatre portraits de femmes à la recherche de leur destin et qui cherchent à résoudre leurs problèmes, et tout ceci tourne autour de la vie d'un centre de santé dans un quartier urbain d'une ville africaine lambda, et raconte les vies au jour le jour de ces femmes et de leur entourage.
Ibrahim Sissavané, les Nations Unies qui financent des séries télé, drôle d'époque, non?
C'est très bien. En même temps, je suis convaincu que l'économie de l'audiovisuel obéit à des règles et doit trouver un nouveau souffle dans nos pays. Nous nous attelons actuellement à mieux définir le statut du producteur. Et c'est très bien ce qu'on vient de nous relater, mais je pense qu'il y a suffisamment de ressources, il y a une dynamique qui fait, et j'espère, qui fera qu'on se passera un peu plus de subventions. On ne peut pas à la fois dénoncer une sorte de domination culturelle et chaque fois tendre la main alors qu'il y a à l'intérieur des pays suffisamment de ressources. Tout à l'heure, M. Colonna, un sémiologue analysant tout ça, disait qu'on est dans un monde bipolaire, que la ligne de partage se trouve au niveau des télénovelas.
Oui.
En même temps, il nous a dit aussi que tout le monde peut produire.
Oui.
Donc, il y a là un phénomène aussi quand même qui est multipolaire. Il faut trouver les ressources financières à l'intérieur des pays et je suis convaincu que cela est possible.
Sahar Bagheri, que vous inspire ce projet ? Qui n'est plus un projet d'ailleurs, qui est en train d'arriver.
C'est une vision très très positive de l'Afrique et c'est ce qu'on remarque vraiment.
Ah.
C'est qu'il y a vraiment un intérêt extérieur pour l'Afrique qui incite maintenant tous les acteurs en interne à s'organiser.
Vous voulez dire que le reste du monde, les non-africains, pose un regard positif sur l'Afrique?
Oui, tout à fait. L'Organisation internationale de la francophonie a dit qu'en 2050, plus de 80% des francophones seront africains. Donc ça, d'une part, lié au fait qu'on a l'organisation du numérique qui est en train d'arriver. Donc c'est en train de se faire. Donc on a beaucoup plus de contenus télé qui vont arriver. Et tout ça, ça inspire beaucoup. On a des acteurs étrangers comme Lagardère, étranger à l'Afrique, hein. Lagardère A+, Canal+, qui se mettent à investir dans le continent. Et forcément, ça incite les acteurs en Afrique à s'organiser, à encourager la formation technique des réalisateurs, mais aussi des auteurs, pour développer la production locale qui parle aux téléspectateurs parce qu'il lui permet de s'identifier à des contenus locaux et proches de lui.
Signalons d'ailleurs que les jeunes cinéastes ou les aspirants cinéastes peuvent se former au cinéma dans la formidable école de cinéma ESAV au nord de l'Afrique, au Maroc, où une formation complète leur est dispensée. Alexandre Rideau, quel accueil vous font les Africains quand vous présentez ce projet?
C'est encore un petit peu tôt pour le dire, bien sûr, toute l'équipe.
Mais quand vous l'évoquez.
Quand je parle de toute l'équipe, on parle de plus de 120 personnes qui ont travaillé sur ce projet de 6 pays différents d'Afrique. Mais quand on l'évoque, on a vraiment une gigantesque attente parce que on a l'ambition de créer quelque chose qui soit typiquement africain comme spectacle, mais avec des moyens qui permettent, j'espère, on le verra, mais de produire quelque chose qui soit de qualité. Donc on suscite une grande attente et sur les quelques focus group qu'on a pu organiser pour montrer les premiers épisodes, on a reçu un accueil très positif des hommes, des femmes et des plus jeunes à qui on a montré cela et qui demandent à voir la suite maintenant.
Alors la suite justement, ce sera sur TV5 Monde, mais pas seulement.
Non, on commence en fait par une première diffusion sur A+, donc qui est la nouvelle chaîne du groupe Canal+, ensuite sur TV5 Monde, et à partir du début de l'année 2016, sur le réseau des chaînes locales africaines, qui sont partenaires avec Canal France International, donc tout à travers l'Afrique.
Merci beaucoup. Sahar Bagheri, l'avenir, la suite des séries télé, qu'est-ce que c'est ? À quoi pouvons-nous nous attendre dans les jours, les mois, les années à venir ?
Ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a de plus en plus des coproductions qui se font pour justement avoir des séries de qualité de celles de films, des coproductions particulièrement en Europe. Donc ça, c'est ce qu'on voit émerger. Également, des séries qui mettent en scène de plus en plus des réalisateurs ou des acteurs du monde du cinéma. Donc la passerelle se fait entre la
entre
fiction
cinématographique et la série télé.
Et également des adaptations de romans ou de films.
Ibrahim Sissavané, la Côte d'Ivoire, à quoi peut-on s'attendre rapidement ?
Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une énergie formidable en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Mais en tout cas, je remarque véritablement en Côte d'Ivoire. Je voudrais juste dire un petit point qui paraît très négatif. Je déplore quand même que la série se fasse au détriment de la lecture aussi. Mm-hmm. Tout à l'heure, on en parlait de la démographie qui ferait que l'Afrique sera le continent de la francophonie, etc. Mais il faut aussi que cette population puisse aller à l'école avec des systèmes éducatifs qui sont en train de se déliter. Je déplore un peu que tout cela se passe au détriment de la lecture.
Le message est passé, Ibrahim Sassi Savané. On allume la télé, d'accord, mais on ouvre les livres aussi, voire surtout, et notamment celui de Vincent Colonna, L'art des séries télé. Le tome 2 s'appelle L'adieu à la morale. C'est un livre absolument excellent qui nous fait voyager à travers le temps, l'histoire des séries télé que vous mettez en relation avec notre consommation, nos consommations culturelles générales. Merci beaucoup à chacun de vous, Sahar Bagheri, Vincent Colonna et Ibrahim Sissi Savané, ainsi que Alexandre Rideau d'avoir été nos invités. Merci à vous, les voisins, pour votre attention, pour vos témoignages. Vous pouvez réécouter ou faire écouter cette émission et les podcaster www.rfi.fr. Merci à l'équipe 7 milliards, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Jonas Mallet-Solart et Didier Chérouse. Demain, les voisins, nous parlerons des femmes et de leur rapport à l'argent. Bonne journée à l'écoute des programmes de RFI. À demain.